Voilà, une joie d'être ensemble. C'est un des cultes de rentrée. Le collège Daniel a fait sa pré-rentrée pendant plusieurs jours. Et je crois que nous sommes à la fois, nous sommes un peu... devant chaque année, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as de nouveau ? Et il y a un peu une appréhension en se disant, ouais, qu'est-ce qu'on va vivre encore avec toi ? Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur... la notion d'être revêtu, être oint, être consacré. Et on a eu l'occasion de partager quelques versets, mais j'aimerais rappeler dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 5-6, cette parole qu'on chante parfois, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Très souvent, on a tous compris qu'on a été délivré de nos péchés, mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement être délivré, c'est devenir. Et c'est devenir ce royaume de sacrificateurs. Alors, le sacrificateur, le mot biblique, c'est prêtre. Nous sommes des prêtres. Et ça me rappelle d'ailleurs mon grand-père. Avant qu'il meure, il avait un rêve. Et il m'avait dit, Luc, je t'ai vu, c'est un catholique pratiquant et tout ça, je t'ai vu prêtre. Je t'ai vu prêtre. Je pense qu'il n'arrivait pas à mettre les mots dessus, sur ce que Dieu lui montrait, mais c'est pas loin visé, quoi. Hein. Donc, un prêtre, ça vient d'un mot arabe, ça veut dire celui qui s'approche. Celui qui s'approche. Et rappelez-vous, Hébreux 4, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc le ministère de nous approcher, c'est le ministère du prêtre, c'est le mot même, prêtre sacrificateur. Donc il y avait un temps en Israël, vous connaissez, où une fois par an, eh bien, on ordonnait le grand sacrificateur, le grand prêtre, celui qui avait le privilège de s'approcher de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise ce texte comme base de notre prédication ce matin. C'est dans Exode, chapitre 40, verset 13 et suivant. « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau, tu les revêtiras, Aaron, des vêtements sacrés, tu l'oindras, tu le sanctifieras, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu revêtiras Aaron, donc des vêtements sacrés, je répète, tu l'oindras pour le consacrer et pour qu'il soit à mon service. Et ensuite, regardez, tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques, tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. » Donc déjà ici, on voit quelque chose d'intéressant. La prêtrise, c'était une affaire de famille. Je rappelle ici, la vision d'église, c'était une famille. C'est notre mission, c'est nous ce que nous sommes. Et on voit qu'ici, la prêtrise, c'était une affaire de famille. Et l'onction qui était sur le père, elle était déversée sur les enfants aussi. Et j'aimerais qu'on regarde l'ordre de ce qui s'est passé. Et c'est un rappel pour plusieurs, mais regardez. 1, tu le revêtiras. 2, tu l'oindras. Et 3, il exercera le ministère. Et nous, très souvent, on fait le contraire. Nous, très souvent, on dit, je veux un ministère pour Dieu, je veux faire des choses. Et si j'en fais assez, peut-être que tu moindras. Peut-être que j'aurai l'onction si je fais assez de choses pour Dieu. Voyez ? Et peut-être qu'au fond, eh bien, je serai accepté. Voyez ? Parfois, pas toujours, mais ça peut être ça. Dieu dit, non, je te revais, L'onction, elle vient non pas de qui tu es, mais de ce que je t'ai revêtu. L'onction pour le ministère, pour ses enseignants, pour ses éducateurs, elle ne vient pas d'abord par leur bonne volonté, par ce qu'ils sont, par leur diplôme, elle vient parce qu'ils sont revêtus. Donc être revêtu, être oint, et ensuite exercer le ministère. Et on sait bien ici, et c'est un des ADN de cette église locale, et puis de tout le corps de Christ, hein, c'est pas seulement la panacée ici, mais ici on met l'accent, c'est-à-dire que ce vêtement, vous connaissez tous, il symbolise la justice. C'est ce vêtement de la justice que Dieu nous donne. Et chaque année, on veut le répéter. Ça met l'accent sur qui nous sommes. Le vêtement de la justice permet le déversement de l'onction. Tant que nous sommes chrétiens et que nous croyons que ça dépend de notre obéissance ou pas, de nos actions ou pas, que Dieu nous approuve ou pas, nous voit ou pas, on n'a jamais fini parce qu'on aura toujours des bonnes excuses pour dire « Ah ben là, il n'y a pas eu l'onction parce que je n'ai pas été au top. Là, j'aurais dû prier plus. Là, j'aurais dû lire plus ma Bible. Ah, là, avec un tel. » Vous voyez, on est toujours comme ça. Et on dit ben, « C'est normal que je n'ai pas l'onction. » Mais Dieu dit « Arrête maintenant. Arrête maintenant. Crois que je t'ai revêtu. » Alors bien sûr, un vêtement, ça lave pas tout. Le vêtement, à l'intérieur, tu restes avec des choses, des domaines à laisser travailler Dieu. Mais ce vêtement de la justice, c'est un vêtement qui est parfait et que tu réhabilites comme si tu étais avant la chute, qui te réhabilite totalement. Et ce vêtement, il faut en être conscient que nous le portons et c'est ça qui permet le déversement de l'onction. Dieu ne déverse pas son onction là où ce n'est pas parfait. Et Dieu nous rend parfaits avec ce vêtement qu'il nous donne. Et ce vêtement du salut qui est le vêtement de la justice, c'est absolument extraordinaire. Donc l'huile, elle symbolise le Saint-Esprit, bien sûr. Ce Saint-Esprit qui est donné sur ceux qui sont revêtus. Ce revêtement, il se prend par la foi. Il se prend, ce manteau, il se prend. C'est cette foi dans ce que Dieu a fait qui donne, qui libère l'onction. Et l'onction, c'est pas une option. On a tellement besoin dans les salles de classe, avec les jeunes, avec tous les ministères, autres ministères qu'enseignants au milieu de nous. Hein. Donc, on a vraiment besoin de cette onction. Et cette huile, elle est déversée sur le sacrificateur revêtu des vêtements sacrés. Donc, et là maintenant, j'aimerais qu'on garde ce texte en mémoire, cette bénédiction, et on en vient maintenant à un texte un peu plus long, qui va compléter le premier, c'est dans Genèse, chapitre 27, versets 1 à 30. Et là, on va le lire ensemble, c'est une histoire assez connue. Vous allez me dire, mais pourquoi cette histoire en début d'année? Ben, vous allez voir. Isaac devenait vieux, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Maintenant donc je te prie, prends ces armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Et fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Et Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier, pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. » Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Alors Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est velu, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non pas la bénédiction. Et sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Et Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Et ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'il se trouvait à la maison. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, son cou était sans poils. Alors elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Et Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, mange mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Et Isaac dit à Jacob, « Approche donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils, Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier, mon fils, afin que mon âme te bénisse. Et Jacob le servit et il mangea. Et il lui apporta du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Et Jacob s'approcha, le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et puis il le bénit. Et il dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc là, vous savez, la coutume, c'était que le père, d'ailleurs une belle coutume, hein, c'est que le père, il a un moment spécial avec son fils aîné. Et ils devaient manger un repas ensemble, le repas de l'Alliance. Et ensuite, le père, il poserait les mains sur son fils aîné et il lui transmet la double onction, la bénédiction. Et cette bénédiction, elle contenait plusieurs choses. À l'époque, cette bénédiction, elle contenait la notion de succession, de confirmation du sacerdoce, de prêtrise. Hein. Je transmets ce que j'ai reçu comme don de Dieu. Voilà. Ensuite, la bénédiction, ça amenait la bénédiction pour diriger le clan, la tribu. Une autorité pour diriger, pour gouverner. Et ensuite, le double héritage sur le plan matériel. Alors écoutez bien, alors on pourrait dire c'est injuste tout ça, mais attention, le fils aîné avait des grosses obligations pour pouvoir aux besoins de tous ceux qui avaient besoin dans la famille. Donc il fallait qu'il ait plus pour pouvoir s'occuper de tous les autres. Donc c'était, le plus, c'était par rapport à la mission et la responsabilité. Parfois, nous, on est là, il l'a plus. Mais attends, regarde ce que Dieu lui demande. Ensuite, tu vas voir. On ne peut pas comparer. Donc ici, il a la double portion, double héritage, le plan matériel, et puis souvent une parole prophétique pour l'avenir de l'individu, de la famille. Là, c'est « je maudirai ceux qui te béniront, je donnerai la graisse du ciel et de la terre », etc. Donc, Isaac a senti que le moment était arrivé pour cette cérémonie sacrée. Et donc, il a appelé son fils Ésaü, il lui a donné donc les instructions, etc. Donc, la mère, vous avez vu son rôle, elle a entendu Rebecca, elle a entendu, elle a dit « oh là là, il ne faut pas que Jacob loupe cela ». Donc, elle a fait ce rôle, on va voir un peu ce que ça veut dire tout à l'heure, mais nous avons ici, dans cette histoire, une merveilleuse histoire où chaque personne de cette histoire, bien évidemment, parle d'une des personnes de la Trinité. Et nous avons, dans le rôle d'Isaac, on va voir, il symbolise le Père, on va voir en quoi. Et puis dans Rebecca, c'est le Saint-Esprit. Et puis dans Ésaü, le fils aîné qui symbolise Jésus. Et Jacob, c'est vous, c'est moi. Donc, l'ombre des choses à venir, ça parle de Jésus, ce texte. Mais ça parle de Jésus en rapport avec moi, avec nous. Et on va voir ce que ça veut dire. Donc, la mère, elle savait que le temps de la bénédiction était venu. Alors, elle encourage Jacob à venir dans la présence de son père pour recevoir la double portion. Donc ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te convainc de quoi ? Qui te convainc qu'il faut que tu te revêtes d'un manteau. Le manteau, tu ne peux pas venir au Père si tu n'es pas revêtu de ce manteau. Ce manteau de poils, ces poils d'Ésaü. Il a fallu, pour faire ce manteau d'Ésaü, tuer un animal. Ça parle déjà du sacrifice. Et le manteau d'Ésaü nous annonce le manteau de la justice. Et on ne vient pas devant le Père si on ne sent pas le Fils. Et donc le salut qui nous est donné, c'est ce manteau qui était donné à Ésaü, qui est plein de poils, qui sent le champ. Mais Dieu, le Père Isaac, qui ne voit pas bien, eh bien, il sent cette odeur. Au toucher, il voit ce manteau. Alors, voyez le Saint-Esprit, Rebecca, qui t'attire dans la présence du Père, qui te demande, revêt-toi, et viens à ton Père pour recevoir la bénédiction. Dieu veut que toi et moi, on comprenne que lorsqu'on vient à lui revêtu de cette justice, de ce manteau de notre frère aîné Jésus. La Bible dit que le frère aîné, c'est Jésus. Notre frère aîné, c'est Jésus. Il a reçu toute l'onction et il veut te la transmettre. Il veut te la donner. Alors tu es revêtu de ce manteau de ton frère aîné. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme Isaac. Il fait l'aveugle. Il fait celui qui ne voit pas. Il voit bien, hein, mais il fait comme si. Il touche, il fait l'aveugle. Dieu a choisi de ne pas voir notre péché quand on est revêtu de la justice. Il a choisi de ne pas voir cela. Parce qu'il a dit, tu es revêtu, je ne regarde pas, je ne vois pas, mais je reconnais mon fils et je vais te bénir. Donc cette image de la faiblesse d'Isaac nous parle d'une apparence faiblesse de Dieu. On dit, mais pourquoi il ne voit pas? Et Dieu nous demande à nous voir les uns les autres de cette même manière. Et même quand il y a péché, Dieu nous demande de nous voir les uns les autres au travers du manteau de poils d'Ésaü. Parce que chacun de nous, on était racheté à grand prix. Et donc cette vision, même pour le pire des pécheurs, même un chrétien qui tombe, tu le regardes avec le regard de Dieu. Et ça peut amener un changement. Comme Pierre qui avait renié Jésus, et Jésus ne l'a pas condamné, il a simplement regardé. Et Pierre s'est relevé. Donc ce regard est important, pas seulement sur nous, mais sur les autres. Et donc Isaac a béni, il a déversé sa présence sur la personne qui est revêtue de ce manteau. Donc voilà, ça c'est important. Et je crois qu'on peut être oint et béni. Il faut croire qu'on peut être béni, de la même façon que Jacob l'a été, parce qu'on est revêtu. Et donc le grand sacrificateur, habillé des vêtements sacrés, il est maintenant prêt pour être oint. Pour recevoir l'onction, il n'y a rien qui empêche. Il y a peut-être toi qui empêches. À force de te voir misérable, nu, pauvre, pécheur. Et c'est là que je rappelle, nous ne sommes plus des pécheurs. La Bible dit, tu as changé de nature. Et cette nature que Dieu t'a donnée est une nature qui est parfaite. Alors tu es quelqu'un de parfait qui pêche parfois. Ce n'est pas juste de dire qu'on n'a pas de péché. Mais c'est faux de dire que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des justes qui péchons parfois. Tu as changé de nature. Et tant que tu dis et que tu crois que tu es ceci, tu es ton péché, ancien, passé, eh bien tu vas stagner parce que tu vas t'interdire l'onction que Dieu veut te déverser sur toi. Donc c'est drôlement important de s'aligner avec ce que Dieu dit. Quand il te voit, le Seigneur, au travers du sacrifice de son Fils, il te voit parfait. Et il dit, arrête de te voir autrement. Je veux que tu te vois comme moi je te vois. Et ça, c'est comprendre la justice. C'est ce qui a fait la réforme en Europe. Hein. C'est cette doctrine de la justification qui a bouleversé comme un tremblement de terre l'Europe. Et qui a fait que les nations ont changé. Parce que les individus, ils commençaient à se voir comme Dieu les voyait. C'est ça, tout le changement, il est là. Et très souvent, dans le monde chrétien, on a mis l'accent. Alors, tu es sauvé par la foi, par la grâce, d'accord. Mais ensuite, alors là, l'accusation vient facilement. Le moindre faux pas, eh bien voilà, il faut la sainteté. Il faut que tu te sanctifies. Dieu dit, j'ai été fait saint pour toi. La sainteté, je te la donne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un travail avec l'esprit à faire sur nos vies. Mais attention, ce n'est pas nous qui arrivons à le faire. Hein. Et cette sainteté, Dieu dit, je te la donne. J'ai été fait sainteté pour toi, justice pour toi, rédemption pour toi, sagesse pour toi. Et donc, l'onction qui est déversée sur le manteau du juste, elle brise les jougs. Et ces jougs intérieurs, ces jougs autour de nous, eh bien, on en sait quelque chose, c'est un peu comme le fils prodigue hein, aussi, qui... Et bien voilà, tant qu'il se considérait pauvre, misérable, il disait, moi je vais travailler, t'en fais pas, papa je me repens mais je ne suis pas digne, et je vais travailler avec les esclaves, ça me suffira. Et il aurait pu toute sa vie rester à travailler comme un esclave. Parfois en tant que chrétien, on peut être comme des esclaves. Mais Dieu dit, mais non, je te revais de mon manteau, viens dans mon palais, viens faire la fête, viens te réjouir à cause de ce manteau. Et donc, le schéma qu'utilise pour un individu, c'est le même qu'il utilise pour une vie d'église. Et lorsque Dieu dit, voilà, d'abord je te revais en tant qu'individu, mais en tant qu'église, je t'oins et je te lance pour le ministère. Donc cette prophétie ensuite, lorsque Isaac parle à Jacob, il lui dit, il y a l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est beau cette image du champ. Le champ, ça parle, le champ de notre cœur, le champ dans lequel Dieu veut semer, et les bonnes, la semence de la parole, elle vient dans un champ où il n'y a pas les pierres, où il n'y a pas les ronces. Et les ronces et les pierres, c'est quoi? C'est les soucis, Jésus l'a dit, mais c'est aussi la façon de se voir tordu, la façon de ne pas avoir compris ce que Jésus a fait. Donc du coup, Jésus bénit ton champ et tu laisses pousser les ronces, parce qu'à chaque faux pas, à chaque tu te condamnes, tu t'accuses, et au lieu de revenir tout de suite vers le Père, eh bien tu penses que tu n'y arriveras jamais et tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Donc vous voyez, c'est tellement important, tellement important. Romains 3, maintenant Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi, les écrits des prophètes, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Donc cet accès du prêtre dans la présence de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs, on a tous cet accès parce que nous avons tous été revêtus. Alors on peut être choqué dans l'histoire, on remarque, on peut dire mais Jacob quand même il est tordu, d'ailleurs la Bible dit que le mot Jacob ça veut dire celui qui est tordu. Alors nous sommes tous des tordus quelque part, on a tous été tordus. Et Jacob à un moment, on peut même le traiter de menteur, parce que quand son père lui dit « est-ce que tu es Jacob ?», il dit « oui ». Mais ça se discute même ça, pourquoi? Parce qu'un passage avant, et vous allez comprendre la clé, je pense, de ce passage. Il y a un moment, nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, Jacob faisait cuire un bon potage, et puis Ésaü qui revenait des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage, la boire de ça, je suis tellement fatigué. » Et alors Jacob lui dit, « Vends-moi ton droit d'aînesse. » Et Ésaü s'en foutait de son droit d'aînesse. Lui, ce qu'il voulait, c'est manger. C'est tout de suite, c'est manger, être bien, quoi. On s'en fout du droit d'aînesse. Et donc, il dit, « À quoi ça sert ce droit d'aînesse? Je vais mourir, ça ne me sert à rien. » Alors Jacob dit, « Mais jure-moi d'abord. » Et il le jura, il lui vendit son droit d'aînesse. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage, des lentilles. Et il mangea, il but et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et donc l'histoire qui vient après, elle est le fruit du mépris de l'héritage que Ésaü avait de droit en tant que fils aîné. Et nous, en tant qu'Église, nous avons un héritage. En tant qu'individu, tu as un héritage. Et parmi ton héritage, on a prié pour des enseignants, un de tes héritages c'est la salle de classe et les enfants que Dieu te donne, c'est ton héritage. Et donc cet héritage, on n'a pas à le mépriser. Si on le méprise, on peut passer à côté, et ben oui, ça va empêcher Dieu de t'aimer, mais ne méprise pas l'héritage. Et cette valorisation de l'héritage de Jacob, eh bien Dieu a béni Jacob. Non pas parce qu'il aime moins Ésaü, mais parce qu'il y en a un aimé et qui appréciait son héritage. Vous voyez, donc ça c'est drôlement important. Et Dieu nous confie cet héritage à chacun de nous. Donc quand Ésaü lui demande « Es-tu Ésaü ?» et qu'il a dit « Oui », Saint Augustin dit ceci, je cite « D'ailleurs Jacob n'avait point menti en disant « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Celui-ci avait dès lors fait un pacte avec son frère et lui avait vendu son droit d'aînesse. Jacob se présenta donc à son père comme possédant ce qu'il avait acheté à Ésaü. Il avait acquis ce que celui-ci avait perdu. Ça, c'est le commentaire de saint Augustin sur ce passage. Donc, être revêtu, être oint et être envoyé, consacré. Être revêtu, donc, nous parle de cette identité. Et c'est pour ça qu'on met tellement l'accent sur l'identité. L'identité, elle fait tout. Tu agis toujours d'après ce que tu es. Nos actions, c'est d'après ce qu'on croit que nous sommes. C'est pour ça que Dieu te rappelle ce matin et en ce début de nouvelle année que tout ce que nous voulons vivre, tout ce que nous voulons faire pour Dieu, avec Dieu, tout ce que vous voulez, c'est sur la base d'une identité. On n'a rien à prouver. On n'a rien à... Il n'y a pas de compétition. Mais à cause de ce que nous sommes, nous agissons d'après ce que nous sommes, voyez. Donc c'est ça qui est tellement important, cette identité que Dieu t'a donnée. Psaume 103, bénis Dieu mon âme et tout ce qui est en moi, n'oublie aucun de ses bienfaits, il pardonne toutes tes iniquités. Le pardon, c'est ce côté légal. Et Jean 16 ensuite nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Ben oui, nous convainc qu'on a péché un jour et puis c'est terminé. De justice, ben oui, on est devenu juste, et de jugement. Et donc le Seigneur nous dit, voilà, je te rappelle ton identité. Donc nous avons en fait la même image restaurée qu'à la création du monde. La belle image, et encore plus même à cause de la grâce, la marque de la grâce que Adam n'avait pas avant le péché. Donc non seulement nous sommes revenus à l'état originel d'une image restaurée à cause de l'œuvre de Jésus, mais en plus il y a cette faille dans nos vies qui a été guérie. Et comme disait souvent un ami, heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Et c'est vraiment cette fêlure de notre péché un jour par laquelle Dieu éclaire la vie des hommes. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, cette maison apostolique que nous voulons être, que nous sommes, c'est une maison qui donne non seulement l'annonce de la réconciliation avec Dieu, mais qui lève des fils et des filles pour exercer la sacrificature ensemble, un règne, un royaume de sacrificateurs. Et le prêtre, c'est celui qui réconcilie le ciel avec la terre. Et c'est notre ministère en tant qu'Église, en tant que prêtre, avec nos fils et filles. C'est pour ça que la journée Starter, une journée de famille, parce que le sacerdoce, cette prêtrise, elle est à vivre ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Fils et filles, ensemble, ensemble on veut rentrer dans l'héritage, ensemble nous avons cette image restaurée. Éphésiens 1 nous parle d'un héritage, quel bel héritage, et l'héritage de Dieu c'est toi, tu es son héritage, et l'héritage qu'il te donne, eh bien, c'est ce monde, rappelons-nous. Et alors, cette identité de juste, elle se complète par une identité de serviteur. Et cette année, il y a une formation qui va être donnée au niveau de l'Église, qui s'appellera la formation de Timothée. On vous donnera plus de précisions. Ce sera des vendredis soirs et des samedis, une fois par mois à peu près. Et pour ceux qui sont engagés déjà, hein, donc il faut t'engager si tu veux bénéficier de la formation, il faut t'engager avec Dieu. Voilà. Et cet engagement-là, cette formation, Timothée, c'est, on l'appelle formation de leader-serviteur. Parce que Jésus, la Bible dit, il voyait son Père. Il regardait son Père et il faisait ce que son Père faisait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Jésus, il a servi. Il a servi sans arrêt. Pourquoi il a servi ? Parce qu'il a vu son Père servir. Il fait ce que le Père fait. Donc, le Père sert, donc Jésus a dit, ben moi je sers. Donc, le service, c'est la façon de dominer et d'exercer le royaume et le règne. Donc, le service, c'est pas être bien gentil, tiens, je vais rendre service. Non, 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 attention. Le service, c'est le chemin de la royauté. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas. Dieu a choisi le service pour régner. Jésus a dit, celui qui veut être un chef, il va commencer par servir. Et donc, en servant, avec les dons que tu as, avec ce que Dieu t'a donné, et tu commences à exercer la véritable autorité. L'autorité, c'est toujours dans la libération du service. Servir avec ses dons, c'est régner. Donc, identité de juste, identité de serviteur, hein, ça c'est capital. Et cette année que Dieu nous aide à être une église qui est imprégnée de cet esprit-là. Parce que je crois que chacun a des dons ici. Et ces dons sont à mettre au service des autres. Alors, l'église n'a pas qu'une vision d'église locale. L'église, ce n'est pas ce bâtiment, hein, d'accord ? L'église, c'est la communauté. Et nous sommes appelés à l'établissement Daniel, dans le public, dans, etc., ailleurs. Donc on sert ailleurs. Il faudrait pas, je ne réduis pas le service à le service dans l'Église. Mais je dis que l'Église est ce lieu que Dieu a choisi, cette maison qui est la sienne, qui est comme une priorité pour lui, de laquelle tout découle. Dans ce lieu, nous sommes appelés à inspirer, à équiper, afin qu'on puisse être apte au ministère dehors. Donc, servir le corps de Christ, servir l'Église, c'est le chemin de la royauté, c'est faire ce que Dieu fait, c'est faire ce que Jésus fait. Et moi, je vous encourage à servir. Juste un témoignage, bon, plusieurs peut-être le connaissent déjà, mais jeune chrétien, on avait aidé à implanter l'église Pierre Vivante à Mulhouse. Il y avait deux couples, on était le troisième. Il y avait tout à faire. Il y avait tout à faire. Alors la sono, trimballer le matin, ramener le soir, on était une église ambulante. Il fallait s'occuper des enfants, il y en avait pas mal, parce que très vite, on est devenu une communauté assez importante. Alors, école du dimanche pendant des années, etc., etc. Servir. Et puis, quand tu es fidèle dans les dons que Dieu t'a donnés et que tu les mets au service, eh bien, Dieu, il te confie plus. Il te confie plus parce que Dieu cherche ardemment des fils et des filles, c'est-à-dire des gens sur lesquels il peut compter. Et Dieu aimerait tellement dire, je veux compter sur toi, je t'aime, c'est une chose. Mais compter sur toi, c'en est une autre. Hein, c'est comme avec nos enfants, on les aime nos enfants, mais compter sur eux, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, Dieu veut compter sur nous. Et il va compter, être fils, c'est être bien dans son identité, dans le cœur de serviteur. Et cette identité nous conduit dans un amour pour l'héritage que Dieu nous a donné. Et est-ce que tu connais cet héritage? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as le sens de cette destinée? Daniel, par exemple, dans la Bible, on parle beaucoup de Daniel. Daniel 7, et on termine par là, il avait des visions et je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable, un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, m'en donna l'explication. Ces grands animaux que tu as vus, c'est les quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement. Remarquez une chose. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Daniel, il était position de gouvernement. D'accord ? Position de gouvernement. Tu sais pourquoi il était en position de gouvernement ? Non seulement parce que Dieu lui a donné la sagesse, mais parce qu'il avait la vision d'un Dieu qui règne, un. Et il avait la vision des saints qui règnent, deux. C'est pour ça qu'il a régné. Si tu n'as pas la vision d'un Dieu qui règne, tu ne peux pas exercer le règne. Si tu n'as pas la vision d'un peuple de Dieu qui est appelé à régner, alors imparfaitement, jusqu'au retour de Jésus. Bien sûr, on n'a pas la prétention d'amener le règne comme ça, tout est bon. Non, non. Mais quand même, la vision finale, elle est claire. Et nous sommes appelés à régner. Et donc, cette double vision, un Dieu qui règne, et moi qui suis appelé à régner avec lui, ça fait de toi un leader, serviteur, qui va régner là où il est. Et donc, je termine par ces paroles de l'Apocalypse. L'apôtre Jean, il écrit aux églises, toutes les églises très différentes, hein, très très différentes les églises, avec chacune leurs problèmes. Vous avez remarqué que chaque église a ses problèmes ? C'est extraordinaire ça, extraordinaire. Et chaque église, et l'apôtre Paul qui parle aux églises, aux saints d'Éphèse, et puis quand tu vois ce qui se passe à Éphèse, aux saints de Corinthe, et quand tu vois ce qui se passe à Corinthe, oh, mais comment il peut dire qu'ils sont saints ? Parce que Dieu le dit, ils sont saints. Ouh là 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 ! Et nous on dit, mais non, mais c'est que des pécheurs, regardez, il y a l'impureté, il y a ça. C'est... Mais Dieu dit, ils sont revêtus. Et moi je traite le péché. Bien sûr, on le dénonce, on le dit, mais je te dis que cette église, elle est sainte. Donc si Dieu appelle saint, que parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne voit pas comme nous, il voit avec l'œuvre de son Fils. Donc regardez, le point commun de toutes les lettres des églises à l'Apocalypse, ce point commun c'est la notion de victoire. À celui qui vaincra. Et vous savez, le mot victoire en grec, les jeunes, vous allez kiffer grave. Le mot victoire, c'est Nike. 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 Victoire. Nike. Alors, cette victoire, Nikao, qui signifie faire dessus, prévaloir, conquérir. Uponikao, être plus que vainqueur. Ça, c'est partout dans la Bible. Partout, grâce à Dieu, 1 Corinthiens 15, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous l'a pas donné une fois, il nous la donne de façon permanente. Regardez, Église d'Éphèse, Apocalypse 2:7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Église de Smyrne, Apocalypse 2, 10, 11. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Église de Pergame, Apocalypse 2, 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Personne ne le connaît, si sinon celui qui le reçoit. Ce caillou, probablement un fondement, une pierre de fondement pour nos vies. Église de Thyatire, Apocalypse 2, 26, 28. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. À celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Dieu nous confie son œuvre. Le bercail est une œuvre de Dieu, confiée au peuple de Dieu. Le collège Daniel est une œuvre de Dieu, l'établissement que Dieu confie au peuple de Dieu. L'église Josué est une œuvre de Dieu que Dieu confie à son peuple. La Bible dit, celui qui aura gardé mes œuvres aussi, hein, c'est aussi ça, parce que c'est, eh bien, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Et il les pétera avec une verge de fer, comme on les brise avec l'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir. L'appel d'une église, c'est de toucher les nations. Et ça commence par prier pour les nations. Église de Sardes, Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu avec des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Église de Philadelphie, 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Laodicée, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, la victoire, ce n'est pas une option. Et la Bible dit qu'en Jésus, il nous donne la victoire. Alors, Dieu n'espère pas qu'on soit vainqueur. Dieu dit, je veux que tu sois vainqueur. Ce n'est pas pareil. Alors, pour être vainqueur, il faut avoir rempli, il faut livrer des batailles. Il n'y a pas de vainqueur sans qu'il y ait des batailles. Ça n'existe pas. Donc, les batailles sont là, les souffrances du monde présent sont là pour nous apprendre à exercer nos mains au combat, nos doigts à la bataille, afin qu'on devienne vainqueur. Et c'est ce que Dieu veut pour notre Église, pour cette année, qu'on rentre dans les promesses de Dieu, qu'on sache qui on est, qu'on sache qui il est, qu'on chérisse l'héritage, et que si un jour on est crevé, fatigué, on ne le vende pas, cet héritage, on le garde, parce que c'est l'héritage de Dieu. Et cet héritage de la guérison, cet héritage de l'enseignement, cet héritage de la formation, on le garde précieusement, on le développe, on le cultive, on le nourrit. Que le Seigneur nous aide cette année, tous ensemble, les fils d'Aaron et les Aarons au milieu de nous, et les petits-fils d'Aaron, à exercer notre sacrificature et à exercer notre royauté. Seigneur, merci pour ce que tu as fait de nous. Seigneur, c'est inimaginable. On est encore émerveillés. Comment tu nous as tirés de là où on était? Et comment jour après jour tu nous tires de notre boue, de nos pesanteurs, de nos échecs, de nos déceptions, de nos accusations. Seigneur, si tu es un Dieu de victoire, et cette victoire, tu l'as fait qu'on la remporte aujourd'hui encore, ce matin. Seigneur, nous nous rappelons ce que tu as fait, nous nous rappelons qui nous sommes, et nous sommes revêtus des vêtements de la justice, des vêtements du salut, des vêtements de la louange, les vêtements de sacrificateurs. Nous sommes revêtus et tu nous vois, tu fais l'aveugle. Tu ne vois plus le péché, mais tu vois, Seigneur, l'œuvre du Fils en chacun de nous. Et tu nous vois parfait. Quel mystère, Seigneur. Quelle beauté de ton évangile. Quelle bonne nouvelle, Seigneur. Et Seigneur, non seulement tu nous as revêtus, mais tu nous oins. Seigneur, ce n'est pas une option, cette onction. On en a besoin dans tout ce qu'on fait. En tant que père, que mère, qu'époux, qu'épouse, que fils, que fille, que exerçant une profession, on a besoin de cette onction. Et on la reçoit ce matin, parce que nous sommes justes. Alors, on reçoit cette onction ce matin. Et tu nous donnes d'exercer le ministère, la vocation, avec intelligence, avec pertinence, avec conviction, avec fruit. Merci Seigneur, que ta bénédiction qui repose sur ceux qui sont justes, elle soit notre lot. Et je vous laisse le psaume 37, toutes les promesses pour ceux qui sont justes, c'est les promesses pour toi. Tu n'as pas à devenir juste, plus juste que tu l'es. Tu ne peux pas plus. Mais Dieu t'a rendu parfait. Et il te voit parfait. Et il te bénit comme il a béni Jacob. Parce que tu es quelqu'un qui a saisi, qui t'a laissé revêtir du manteau de poil du frère aîné. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis-nous, Seigneur, en tant que communauté, non pas pour qu'on soit seulement bien, mais parce qu'on a tellement de choses à accomplir. Et sans toi, on ne peut pas le faire. Alors, Seigneur, viens que ta bénédiction, parce que nous sommes justes, et bien que ton onction soit sur nous tous ce matin, pour l'exercice du ministère auquel tu nous appelles. Au nom de Jésus. Amen. Amen.